Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis soulagée que cette semaine commence en réalité. Je vais commencer par là, parce que c'est la troisième édition, mais c'est pas parce que c'est la troisième édition que ça fait moins de travail et de stress. Et donc c'est un gros travail que l'organisation de cette semaine. Donc je commence par remercier toutes les personnes, agentes et agents notamment, qui ont contribué, et également tous les partenaires. Parce que cette semaine européenne du numérique responsable, c'est vraiment un travail collectif. Donc un grand merci à tout le monde. Alors il m'appartient de vous la présenter en quelques mots. Moi-même, donc Caroline Zorn, je suis conseillère municipale de Strasbourg, je suis vice-présidente de l'Eurométropole, en charge, pour simplifier, de l'université du numérique. Voilà. Et Antoine Dubois m'a rejoint, donc que je laisserai se présenter tout à l'heure, mais qui est également vice-président de l'Eurométropole. Voilà. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais faire un effort de concision déjà, puisque c'est un sujet, je pense, qui peut m'animer pendant des jours. Mais pour être clair sur l'objectif de cette présentation, c'est vraiment vous dire ce qu'est la Semaine européenne du numérique responsable et vous donner envie d'en parler autour de vous et de faire venir vos proches et évidemment tout le public qui pourra y être intéressé. Alors, spoiler, ça intéresse tout le monde. Enfin, tout le monde, sauf des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur, qui n'ont pas de smartphone dans leur poche et qui n'utilisent absolument jamais les réseaux sociaux. Donc, si vous connaissez des personnes de ce type, évidemment, c'est peut-être pas la peine de leur en parler. Quoique, ils ont peut-être eux-mêmes des personnes dans leur entourage qui utilisent un smartphone, regardent les réseaux sociaux ou utilisent un ordinateur. Voilà. Donc, c'est vous dire que ce sujet, il est extrêmement grand public. Lorsqu'on a commencé la Semaine européenne du numérique responsable, on n'était pas convaincu, tout le monde n'était pas convaincu que ça allait prendre, puisque le numérique est trop souvent vu comme une sorte de ressource logistique. Vous voyez, c'est le service informatique. Et non, ce n'est pas le service informatique. Par exemple, dans la collectivité, on a une direction du numérique et des systèmes d'information et qui met en place une stratégie. Et pourquoi il y a besoin d'une stratégie ? C'est parce que le numérique n'est pas juste un choix neutre, technologique, qui n'a pas d'implication. Le numérique, faire des choix en numérique aujourd'hui, c'est souvent choisir des opérateurs, des marques, certaines technologies libres ou propriétaires, par exemple. C'est aussi faire un choix responsable ou non, c'est-à-dire s'interroger un petit peu sur là d'où viennent les minerais, par exemple, qui sont nécessaires au numérique. Lorsqu'on a un téléphone portable, lorsqu'on a un smartphone, c'est... Plusieurs dizaines, voire centaines de minerais et de métaux qui sont utilisés pour le faire. Ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas du nuage. Vous savez, ce cloud-là dont on imagine que c'est parfaitement immatériel et transparent, ce n'est pas un nuage du tout qui sert à partager des données aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont complètement matérielles et ce sont des humains derrière qui vont les chercher. Ce sera notamment l'objet de la conférence de ce soir à 17h30, mais pas que, puisque... Vous faites aussi, par exemple, le choix, quand vous utilisez une solution ou une autre, de faire tourner tel ou tel data center. Bon, eh bien, selon que vous utilisez une solution qui va héberger ses données dans un data center propre, comme celui de l'Université de Strasbourg, par exemple, qui a fait un gros effort là-dessus, ou si vous utilisez une solution qui héberge ses données dans un data center qui utilise du charbon, des Appalaches, quelque part en Amérique, vous n'avez pas du tout la même empreinte environnementale. Et puis là encore, quand on calcule cette empreinte environnementale, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de calculer. Et notamment d'un pays à l'autre, en fonction d'une énergie décarbonée ou non, vous n'avez pas la même empreinte. Là encore, ce sera l'objet de discussions, peut-être un peu punchy ce soir avec l'ADEME, avec Pierre Bessac, avec Gauthier Roussy, qui viendront discuter de cette manière dont on appréhende les énergies nécessaires au numérique. Ça, c'est un petit peu, là, je suis en train de vous parler de l'axe 1, notre stratégie, puisque dans cette collectivité, on a le bonheur d'avoir mis en place un cadre stratégique pour ce numérique responsable. Et l'axe 1 tourne plutôt autour, enfin complètement autour d'ailleurs, de cet effort de sobriété. Donc cette réflexion sur comment on source les choses, comment est-ce qu'on calcule notre empreinte, comment est-ce qu'on essaye d'être, de tout simplement utiliser des choses qui sont... vertueuses, mais de les utiliser, puisque la sobriété numérique n'est pas l'ascèse numérique. Il n'est pas question de tout diaboliser, parce que, et là encore, ce n'est pas une surprise, le numérique, c'est un formidable moyen d'expression et d'émancipation. Et parfois, certaines personnes en sont exclues de ça. Alors souvent, on parle de la fracture numérique pour dire, et c'est notre axe 2, solidarité numérique, pour dire les gens sont en fracture numérique, il y a de l'électronisme, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et on a d'ailleurs des chiffres vraiment inquiétants de la Défenseure des droits depuis des années qui alarment en disant on va vers 100% de dématérialisation des services de l'État, mais en parallèle, on a toujours des millions de Français qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc il y a là un vrai problème. Mais si c'était que pour faire... Donc on a des permanences numériques ici, vous pouvez voir ça dans le programme. On a des conférences et des ateliers sur comment avoir les bases, comment prendre les choses en main, comment apprendre, quel que soit son niveau. Aussi lutter contre les arnaques, se prévenir du cyberharcèlement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le programme dont on est très fiers. Mais il y a aussi le numérique qui est une possibilité, donc je le disais, de s'émanciper. Et même la Cour européenne des droits de l'homme, moi j'aime bien quand même rappeler la base, surtout à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que l'accès à Internet est un droit fondamental pour pouvoir justement s'exprimer dans ce monde, dans cette société de l'information. Donc il faut permettre ça. Mais lorsque le numérique devient synonyme de danger, devient synonyme d'angoisse, et notamment pour les parents, ça bloque les choses. Et il faut absolument qu'on dépasse ça et qu'on tire tous les bénéfices du numérique, mais voilà, avec cette volonté de faire un espace sûr, libre. Et là encore, on a beaucoup de choses qui vont y aider. Et c'est un petit peu notre axe 3 de la stratégie, c'est les libertés numériques. Et pour être libre, il faut être en confiance. Si on n'a pas confiance, on n'arrive pas à être libre, on n'arrive pas à être soi. Voilà. Et c'est ça l'émancipation, et c'est pour ça qu'on veut lutter contre les cyberattaques, la malveillance en ligne, et puis avoir dans liberté libre, vous l'avez compris, ce logiciel libre qui permet, eh bien, de, là encore, de s'émanciper vis-à-vis des grands opérateurs qui ont, au fur et à mesure des années, privatisé l'accès à l'information. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, à Strasbourg, on veut lutter contre ça. Je dis souvent que Internet, au départ, c'était une grande bibliothèque libre où tout le monde pouvait accéder. C'était ça, hein, le cœur d'Internet. Tout le monde pouvait accéder au commun, au savoir, partager le savoir. Puis, au fur et à mesure des décennies, hein, depuis l'invention d'Internet, on va dire ça comme ça, les grands opérateurs, les géants du numérique ont privatisé pièce par pièce, étage par étage. Et donc maintenant, vous devez avoir des licences, vous devez payer des accès pour partager cette information. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Pour parvenir à cet objectif sur nos trois axes, donc d'améliorer la sobriété, les solidarités, les libertés numériques, on a un chapeau qui est l'éducation populaire au numérique. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la Semaine européenne du numérique responsable. On le fait à Strasbourg, on le fait aussi dans d'autres endroits en Europe. Mardi, au Parlement européen. Si c'est quand même une chance qu'on a à Strasbourg, c'est de pouvoir se payer le luxe de faire une petite conférence au Parlement européen. Et donc on l'a fait au Parlement, je le répète, mardi à 15h30. Et là, on aura l'exemple d'autres villes européennes. On aura l'exemple de Madrid, on parlera aussi de ce qui se fait en Belgique. On aura l'homologue de Marseille qui viendra parler aussi de ce qui fait du côté open data. Donc on aura ces exemples-là dont il faut s'inspirer pour faire en sorte que Strasbourg soit le phare du numérique responsable en Europe. voilà. Donc ça, c'est un peu la philosophie globale de la Semaine européenne du numérique responsable. Je vais passer la parole à Antoine Dubois, dont le travail est d'autant plus important que, on en redira un mot à la conférence de ce soir, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Et il se trouve que pour faire quelque part dans la chaîne, pour faire nos appareils électroniques, il y a des enfants qui travaillent. Et donc, le travail d'Antoine contribue à faire cesser ça.
Merci Caroline pour ces mots introductifs qui mettent une forme de pression, mais qui sont tout à fait véridiques. Mais bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être à vos côtés ce matin sur l'invitation de Caroline. À double titre. Le premier, c'est que ma première mission, je suis élu conseiller de Neudorf et nous sommes en plein cœur de Neudorf. Voilà, et je suis très content que ce Shadok retrouve puisse vous accueillir et puisse symboliser l'engagement de la ville et de leur métropole sur un sujet comme ça. Et puis deuxièmement, je suis vice-président à l'Eurométropole en charge de l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre, je vais vous parler du SIEG sur le réemploi du numérique responsable. Alors, je suis un peu comme Caroline, on est des gens passionnés. Et ma première motivation, c'est de donner du sens aux choses. Vous savez que l'économie sociale y participe pour beaucoup. Mais alors là, en plus, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui du remploi du matériel informatique, c'est encore plus. Parce qu'évidemment, il y a du sens dans l'objet et puis dans le sens qu'on va lui redonner vie. Alors, quelques chiffres pour commencer. Qui base nos constats et notre envie d'agir. Le premier, c'est qu'on est à peu près seulement à 5% des biens qui sont émis 5% des biens émis ne sont réemployés dans le numérique. Et encore, c'est une estimation plutôt positive. Pas sûr que ça soit autant que ça, d'autant plus que les ventes n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, vous voyez, le gap grandit. Et donc, l'urgence à agir est d'autant plus importante. Et on estime à peu près à 13 millions de Français éloignés du numérique. Voilà, une forme de la précarité. Et quand je vais vous donner la définition de ce que c'est qu'être éloigné du numérique, on va dire que c'est peut-être même encore plus que ça, que 13 millions. On estime qu'un foyer est éloigné du numérique quand il n'a... Enfin, qu'il n'est pas éloigné du numérique, disons-le comme ça, quand il a au moins un smartphone dans son foyer. C'est pour vous dire, c'est pas forcément un équipement, un ordinateur ou une connexion, c'est simplement un smartphone. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a beaucoup plus qui, dans les faits, sont éloignés, parce que dans une famille de 3, 4, 5 enfants, quand vous n'avez qu'un seul smartphone, pour avoir accès ne serait-ce qu'à vos devoirs, on l'a vu pendant la période de pandémie, c'est très compliqué. Alors, en métropole, ça fait longtemps qu'on fait déjà du réemploi. On est à peu près à 2500 équipements réemployés, recyclés par an, mais on souhaite accélérer. Pour ce faire, on met en place un SIEG. Alors, c'est un acronyme un peu barbare, mais qui est très simple, qui veut dire... voilà, le S me manque. Un service d'intérêt économique général. Voilà, à force de l'utiliser, on l'oublie. Et en fait, c'est un dispositif qui est né du traité de Lisbonne européen, qui essaye de recouvrir tous les dispositifs européens qui ont une vocation économique, mais pas seulement, mais qui ont aussi une vocation d'intérêt général, comme le dit le nom. Et en France, on n'a pas encore de décret d'application qui le fait. Donc on passe soit par la subvention, soit par des marchés publics pour développer les SIEG. Et donc sur Strasbourg, on a l'objectif d'y arriver en 2024. Je vais y revenir. Alors on connaît déjà les SIEG, hein. Peut-être les Strasbourgeois qui se promènent dans les quartiers. Vous avez déjà repéré les boîtes où vous déposez vos vêtements, tous les textiles, tous les chaussures. C'est déjà un SIEG. Avant, les structures qui faisaient du réemploi de vêtements, de textiles, de linge, de linge de maison, nous demandaient une autorisation pour déposer des bennes. Et puis c'était tout, on s'en arrêtait là, on ne voyait pas forcément ce qui se passait derrière. Il pouvait y avoir une forme de concurrence accrue entre ceux qui voulaient mettre les bennes dans des quartiers les plus huppés, parce qu'il y avait meilleur textile à récupérer. Et donc on a structuré ce marché en faisant un SIEG. Maintenant, la zone est parfaitement couverte et on a largement augmenté la récupération et le réemploi de textiles. Et je pense qu'on arrive à exactement à la même chose avec un SIEG numérique. On a trois enjeux sur ce SIEG. Évidemment, environnementaux, c'est sans doute celui qui vient le premier, comme Caroline vient de nous l'expliquer par les matériaux qui sont utilisés, mais également de solidarité et de création d'activités. Les enjeux environnementaux, Caroline vous les a évoqués, je n'y reviens pas pendant le détail, sauf si vous avez quelques questions. Sur la partie solidarité, c'est la précarité numérique. Dans le SIEG, il y aura une incitation, une obligation à orienter les publics vers des structures d'accompagnement, vers une capacité à utiliser des logiciels. Voilà. Et puis, libre. En incitant sur le libre, même si le libre, on sait que c'est... Enfin, moi, j'utilise peu de logiciels libres, je m'en excuse Caroline, mais c'est par habitude. À bien écouter les experts, on voit que c'est facile, quand vous n'avez pas eu d'accès informatique avant, à rentrer dans le libre. Quand vous ne l'avez pas, le gap est plus important. Et donc là, il peut parfois, pour des personnes un peu éloignées, qui ont déjà... Ouais, Microsoft nous a effectivement... nous a orienté sur son système assez facilement. Donc je vous ai parlé effectivement de la solidarité, puis la création d'activités. On estime qu'une structure qui fait du réemploi, une structure mature en tout cas, c'est à peu près 30 postes, 30 équivalents temps plein. Voilà. Aujourd'hui, sur le territoire, les structures qui existent déjà, donc on peut saluer la présence d'Humanis, là, qui fait le café répare, ou Envie, qui est de l'autre côté, je crois, voilà, qui est là-bas. D'ailleurs, qui font café répare, répare café. Moi, je vois plus de tournevis que de touillettes à café, mais peut-être que vous allez transformer le modèle un jour. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais je voulais également vous évoquer le détail de l'appel à projet qu'on a lancé sur les 33 communes de l'Eurométropole, parce que je vous disais tout à l'heure, la ville de Strasbourg, c'est à peu près 2000, la ville de l'Eurométropole, c'est 2500 équipements par jour, et on va, à travers ce dispositif, inciter les communes, les plus petites communes de l'Eurométropole, qui n'ont pas forcément la structure pour recycler leurs deux ordinateurs par an, à se mettre dans ce dispositif, et même au-delà de la collectivité publique, à tout à chacun de pouvoir bénéficier de cette structuration du secteur. Donc pour ce faire, on est accompagné par deux éco-organismes, écologie et écosystème, qui nous aident dans cet appel à projet, dans cette structuration. Le SIEG a deux caractéristiques. La première, c'est que la collectivité va donner tout son matériel. C'est un effort, on aurait pu le revaloriser pour nous, mais effectivement, il y a aussi un coût d'emploi pour nous. Donc c'est assez logique, on passe par un système de dons. Et la deuxième chose, c'est qu'on va financer, on va payer ces structures pour les missions d'intérêt général qu'elles vont réaliser. Et en contrepartie de quoi, on va imposer un certain nombre d'obligations de service public. On donne le matériel, on les finance pour les obligations de service public. Alors les obligations de service public, vous ne serez pas surpris, elles se regroupent en trois volets. Le volet informatique, le volet environnemental et le volet social et partenarial. Je ne serai pas plus long sur ces obligations de service public. Je pense qu'ils vous seront présentés dans la suite. Mais c'est bien notre objectif de structurer le territoire, de redonner du sens de la deuxième vie. Et puis surtout, d'offrir de l'emploi à des personnes qui en sont éloignées et de retrouver un accès au numérique, à l'utilisation des outils numériques pour des personnes qui en sont encore plus éloignées. Voilà Caroline, ce que je pouvais vous partager avec plaisir aujourd'hui.
Alors tu me proposes une belle transition. Puisque là on parlait de la manière d'utiliser son matériel, et puis alors je précise que souvent merci de cet aveu tout à l'heure, hein, voilà, tu n'es pas encore complètement libriste, mais moi non plus, figure-toi, parce que la question c'est pas celle tant de passer au libre que de passer à quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est le changement, quoi. Enfin, voilà. On a nos habitudes, on a nos process, et puis il y a des gens dont c'est le travail, en fait, de ne pas nous faire décrocher, en fait, des outils et des logiciels propriétaires. Donc c'est vers le changement qu'il faut aller. Mais l'essayer, surtout aujourd'hui, hein, l'essayer, c'est l'adopter, le logiciel libre. Et il y a plein de gens pendant cette semaine qui pourront vous le faire, à tout le moins essayer. Sur le matériel en lui-même, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de voiture en fait aujourd'hui, mais bon, on peut se détendre quand même. Voilà. Quand on a une voiture, on a un carnet d'entretien. Quand on a un corps, on a un carnet de santé, ou des enfants. Mon carnet de santé, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, celui de ma fille, je l'entretiens avec précision. Eh bien, lorsqu'on a un équipement informatique, on doit avoir le carnet de santé numérique. Et là, je suis très heureuse de vous présenter ce travail, donc le carnet de santé numérique du poste de travail. C'est un cahier que vous allez pouvoir trouver ici. On a quand même pas mal d'exemplaires mis à votre disposition. La conception de ce carnet de santé, on le doit au Point de Mire, maison de l'informatique plus responsable. Il a été réalisé graphiquement par Cercle Studio et l'Eurométropole a beaucoup travaillé dessus également avec le Shadok. Merci à Sandrine André, je ne sais pas où elle est, elle est là-bas, pour cette coordination et ce travail. C'est vraiment un très très bel outil, c'est très chouette. Et donc vous avez à l'intérieur, hein, je vous engage à aller jeter un coup d'œil et le prendre, vous pouvez consigner les informations relatives à l'entretien de votre machine, à la sécurité logicielle. Ça nous oblige à penser à effectivement la mise à jour de notre logiciel contre logiciel indésirable ou malveillant. Ça nous oblige également à penser à nettoyer notre disque dur. Enfin, ça met des petits rappels et c'est non pas sur support informatique, mais sur support papier. Et on pourra aussi aborder cette question à travers l'informatique et le numérique dans la vie des enfants et sur la manière d'appréhender les informations avec son cerveau d'humain. C'est une conférence qui aura lieu, j'ai un doute si c'est jeudi, je crois, sur les écrans et les enfants. En tout cas, voilà, sur les process cognitifs. C'est mercredi soir, pardon. Mercredi soir, merci. Et une des conclusions, c'est que le papier, ça reste pas mal pour enregistrer un certain nombre de choses dans notre cerveau. Voilà. En tout cas, c'est un outil très bien fait, extrêmement pratique, que je vous engage à aller chercher et à alimenter. Donc, ça, c'est pour les outils très concrets. Et on a également, merci Jelali, cette superbe brochure qui... explicite ce que j'ai pu vous dire de manière un peu brouillonne tout à l'heure sur nos axes 1, 2, 3, c'est-à-dire c'est une brochure sur la stratégie numérique responsable de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc on va y retrouver ces trois axes, sobriété, solidarité et liberté numérique, avec la manière dont on veut le décliner. Donc vous verrez, vous pourrez y trouver nos différents engagements, les moyens et les modalités de suivi de la stratégie. C'est quelque chose que toutes les grandes collectivités doivent faire aujourd'hui, puisque la loi REN, donc pour la responsabilité environnementale, l'empreinte du numérique, je crois, d'évaluation de l'empreinte du numérique, enfin la loi REN de 2021, j'ai un doute sur l'acronyme, tu vois, moi aussi, engage à faire ce travail dans les collectivités pour pouvoir évaluer l'empreinte environnementale. Nous, on va plus loin, puisqu'on ne parle pas, vous l'avez compris, que de numérique sobre, mais de numérique responsable. Donc, à la sobriété, on ajoute la responsabilité, qui est la solidarité, et puis tout ce volet sur les libertés numériques. Voilà. Donc je suis très fière et je remercie encore infiniment tous les gens qui ont travaillé sur cette stratégie du numérique responsable. Je crois que si vous avez des questions sur cette semaine, sur notre stratégie numérique responsable, sur le SIEG, c'est le moment, sachant que on n'a pas toutes les réponses. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qu'on va aller chercher avec tous les partenaires qui travailleront sur cette semaine. Beaucoup de débats qu'on aura encore pour trouver des réponses et puis affiner un peu nos réflexions. Hein, c'est un travail constant. Et, mais je crois qu'on a été tellement clair. Et ben on peut passer à la suite dans ce cas. On reste évidemment à votre disposition. Et puis, bonne semaine européenne du numérique responsable à tout le monde.